Voilà, donc je vous invite à ouvrir vos Bibles à Marc chapitre 3. Nous sommes dans la troisième partie d'une série intitulée « 12 hommes ordinaires ». 12 hommes ordinaires où nous sommes en train de prendre les portraits des 12 apôtres un après l'autre et on les regarde brièvement. Je pense que c'est une étude intéressante, comprendre un petit peu qui étaient ces hommes que Jésus a choisis, qu'il a formés et ensuite qu'il a déployés et qui ont vraiment transformé le monde. D'accord ? Donc, 12 hommes ordinaires, la première fois nous avons, regardons les prendre dans l'ordre, hein. Donc en fait je devrais peut-être lire le texte dans Marc chapitre 3 et à partir du verset 13, je vais juste lire le texte. Il monta ensuite sur la montagne et il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariot, celui qui livra Jésus. Donc nous avons déjà examiné le portrait de Pierre, le leader passionné, on connaît assez bien son portrait. Ensuite, la semaine dernière, deuxième message, excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge. C'est pas la grippe, j'ai déjà eu, donc il y a 2-3 semaines, c'est juste un truc dans la gorge. Ensuite, la semaine dernière, on a regardé le portrait d'André, le frère de Pierre. Lui, vous vous rappelez, qui aimait amener les gens à Jésus. Ensuite, nous avons examiné le portrait de Jacques, fils de tonnerre. C'était celui qui voulait zapper les gens à droite et à gauche, mais que le Seigneur a transformé. Vous vous rappelez que dans Jean 12, il a été martyrisé, il a été tué par l'épée pour sa foi. Ensuite, on a regardé le portrait de son frère Jean. Jean qui lui aussi voulait zapper les gens, mais le Seigneur l'a aussi transformé, et c'était un homme doté de beaucoup de compassion, d'un amour tendre, et vous rappelez que c'est à lui que Jésus a confié sa mère lorsqu'il était en train de mourir crucifié sur la croix. Aujourd'hui, nous allons encore regarder 3 portraits, celui de Philippe, ensuite celui de Barthélemy, qu'on appelle aussi Nathanaël, et le portrait de Matthieu brièvement, puisqu'on l'avait déjà regardé il y a quelque temps en arrière dans le texte. Donc regardons en premier le portrait de Philippe, le 5e disciple. Alors c'est intéressant de vous rappeler qu'il y avait plusieurs groupes, on avait dit ces 12 hommes étaient divisés en groupes, et lui c'est le leader donc du 2e groupe de 4 personnes, un groupe constitué de lui, Barthélemy, Thomas et Matthieu. Thomas on le regardera la semaine prochaine, donc on va regarder 3 de ces 4. Il était selon Jean 1,43 aussi de la ville de Bethsaïda, de la même ville d'André et de Pierre. Donc, ils étaient sans doute copains avant même d'avoir rencontré Jésus. Ils se sont tous retrouvés, en fait, à la mer de Galilée en tant que pêcheurs. Mais ils étaient donc amis d'enfance, on peut dire. Alors, c'est intéressant que les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, ne nous disent rien de Philippe. Seul l'évangile de Jean mentionne cet homme 4 fois. Donc, il y a 4 références à lui. Et ces références dépeignent bien le portrait de ce disciple. Donc on va les prendre à la fois. Regardons en premier Jean 1. Jean 1 à partir du verset 43. C'est donc ici que Philippe rencontre Jésus. Regardons le verset 43. Le lendemain, donc il est sur le bord de la mer de Galilée. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe. Voilà notre homme. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon. Alors on va examiner Nathanaël dans quelques minutes. Parlons un petit peu de Philippe. Ce que on apprend d'emblée par rapport à cet homme, c'est la manière qu'il convainc son ami Nathanaël à suivre Jésus. Parce que Philippe rencontre Jésus et ensuite essaie de convaincre Nathanaël de le suivre aussi. Regardez verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Ceci, alors bien sûr, on n'a pas beaucoup d'informations, on essaie de créer un portrait par rapport à l'information qu'on a, mais cela révélait une facette intéressante de cet homme. Apparemment, il aimait le détail, il aimait la clarté des choses, il aimait aussi faire des recherches. Apparemment, Philippe et Nathanaël, je pense qu'ils étaient ensemble, avaient passé du temps à sonder l'Ancien Testament, les écrits de Moïse et les prophètes, donc les premiers cinq livres de l'Ancien Testament et les prophètes, ils les ont sondés, ils les avaient sondés, pour essayer de comprendre le portrait du Messie à venir. Ils savaient très bien que ces textes pointaient à un Messie, et ils essayaient de comprendre, mais comment il va être ce Messie? Et une fois que Philippe rencontre Jésus, ayant fait ses recherches dans l'Ancien Testament, il est convaincu. Parce que verset 45, il rencontre Nathanaël, et lui dit, nous avons trouvé celui qui, c'est lui, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Super intéressant, il est absolument convaincu. Et donc ce qu'on voit, c'est que c'était un homme de précision. Il avait examiné, lu, chercher à comprendre qui était le Messie, le portrait que celui-ci aurait. Il aimait les recherches, il aimait étudier, mais il avait aussi un côté évangéliste, parce qu'une fois qu'il était convaincu que Jésus était bien le Fils de Dieu, mais il va tout de suite le dire à son ami Nathanaël. Donc, il a un côté rigueur, un côté détail, un côté recherche, un côté consciencieux, mais aussi un côté évangéliste. Pour aller parler à Nathanaël et le convaincre de venir. Regardez maintenant deuxième événement, Jean 6. Jean 6. Vous connaissez cette histoire, la multiplication des pains et des poissons. On va reprendre à partir du verset 1. Et là, on voit le portrait, c'est le même homme, bien sûr, mais là, c'est le côté pragmatique. D'accord, hein, le côté pragmatique de cet homme, assez intéressant. Au verset 1, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mère de Tibériade, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Donc on apprend que Jésus se déplace et là il y a une grande foule qui suit Jésus. On l'avait vu la semaine dernière, le verset 10 nous dit « Faites-les asseoir ». Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes et ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Donc c'était une foule massive, il y a 5000 hommes, donc là on ne compte pas ni les femmes ni les enfants. Donc on estime qu'il y avait environ, si on fait un sort de calcul estimatif, 20 000 personnes. C'est beaucoup de monde, ça fait trois quarts du stade, d'accord? Il y a 35 000 places on me dit je crois, 20 000. Donc verset 5 est intéressant. « Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à qui ?» Philippe. Donc il y a ses 12 disciples, là il se tourne à Philippe, notre homme, et il dit à Philippe « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Alors c'est intéressant, pourquoi est-ce que Jésus se tourne à Philippe ? En fait, on ne sait pas exactement, mais voici ce qu'on suppose. On suppose que Philippe était le gestionnaire du groupe. Je m'explique. Afin de faire fonctionner le groupe de 12 d'une manière fluide et les autres personnes autour de ce groupe, Il fallait déléguer à chacun d'eux des responsabilités claires. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Il a pris en compte les points forts et les points faibles de chacun et il leur a donné des tâches par rapport à leurs capacités. Par exemple, on sait très bien que c'était Judas qui lui est devenu le trésorier du groupe. Ça, on le sait parce que dans Jean 12, c'est exactement ce qu'il est dit. Jean 12 et le verset 6, il est dit, il disait cela non parce qu'il se mettait en peine des pauvres, parlant de Judas et Marie qui oint les pieds de Jésus. D'accord, je suis de nouveau au verset 6. Mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc on sait que Judas, ça on verra quand on verra son portrait, mais il était le trésorier du groupe, c'est lui qui tenait la bourse. Donc son point fort, malheureusement, est devenu son point faible. Il était voleur. Mais lui, il était quelque part le financier du groupe, si on veut. Dans Luc 9, 52, c'est un autre exemple, apparemment il y avait un ou deux disciples qui, eux, étaient responsables des logements. Des logements du groupe. Dans Luc 9, 52, il est dit ceci, « Il envoya, parlant de Jésus, devant lui des messagers qui se mirent en route en entrèrent dans le bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. » Donc, là, il envoie des disciples qui, eux, avaient une tâche pour gérer le logement du groupe. On a l'impression, dans notre texte d'aujourd'hui, que Philippe, et peut-être celui qui, lui, était responsable pour la nourriture du groupe. C'est logique, c'était un homme de détail. Il aimait bien creuser et comprendre. On avait vu ça dans Jean 1. Un homme de détail parfait pour ce travail. À lui de planifier l'achat ou la préparation des repas. N'oublions pas que lorsque le groupe voyageait, il y avait tout un entourage de gens. Par exemple, dans Luc 8, on voit cet entourage. Luc 8, 1, il est dit « Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie dite de Magdala de laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chusa, intendante d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. » Donc là, on sait qu'il y avait les 12, mais ensuite il y avait ces femmes qui étaient là pour aider, qui assistaient de manière ou une autre. On sait aussi dans 1 Corinthiens 9, 5, et ça c'est un truc qui est assez, je trouve, intéressant. Paul y dit, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas. Donc Paul dit qu'apparemment, Pierre, l'apôtre Pierre, voyageait avec Jésus de temps en temps avec sa propre femme. Vous avez posé la question, mais est-ce que ces hommes ont abandonné leur famille pendant 3 ans, ils ne les ont plus jamais revus? Non. De temps en temps, alors ils rentraient souvent à la maison, mais ensuite, parfois, ils venaient avec eux dans le voyage. Donc, tout ça pour dire qu'il y avait un groupe assez grand qui se déplaçait avec Jésus, pas que les 12 comme nous le montrent les films Hollywood, d'accord? Il y en avait bien plus. Alors, on revient maintenant dans nos textes dans Jean 6. Et donc, au verset 5 et 6, Jésus se tourne vers Philippe, ayant levé les yeux, voyant qu'il y avait une grande foule venir à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Intéressant, hein ? On reviendra au verset 6 dans 2 secondes. Regardez le verset 7. « Philippe lui répondit. » Alors Philippe répond, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » C'est ce qu'il dit Philippe. Et là, on apprend beaucoup sur sa personne. Il dit, « Mais Seigneur, j'ai fait les calculs. Écoute, je suis allé voir Judas, j'ai compté l'argent, il y a 200 deniers. J'ai compté les gens, 20 000. » Je me suis renseigné, j'ai compté toutes les boulangeries et les restaurants du coin. Ma conclusion, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent pour nourrir tout le monde. C'est impossible. C'est impossible, Seigneur. Alors dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est la réponse que voulait entendre Jésus ? Il lui pose quand même cette question. Jésus, il sait très bien qu'il y a 20 000 personnes, ils sont dans un champ quelque part, Et comme j'avais dit la semaine dernière, les McDo et les autres restaurants fast-food n'existaient pas à l'époque. Même pas Domino's Pizza. C'est dommage. Vous ne pouvez pas juste appeler, ils amènent. Bon, pour 20 000, je ne sais pas si tu y arriverais, Sorine. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Je crois que la clé est au verset 6. On apprend ce que faisait Jésus au verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Voyez-vous, il y avait un problème avec Philippe. Malgré toutes les qualités qui lui étaient propres, il avait un défaut. Et son défaut, c'était un manque de foi. Il manquait de foi. Philippe était un homme tellement terre-à-terre qu'il avait parfois de la peine à aller au-delà du matériel pour laisser la place au Seigneur d'agir autrement. C'était une évidence qu'il était impossible de nourrir 20 000 personnes par le biais du magasin du coin. Jésus, au verset 6, savait qu'il allait faire un miracle. Donc Jésus savait déjà que c'était une impossibilité humaine. André, qu'on a vu dimanche dernier, apparemment le savait aussi, parce que André, vous rappelez, qu'est-ce qu'il a fait lui? Lui, il est allé voir s'il pouvait trouver le pique-nique d'un petit garçon, et il trouve un garçon avec 5 pains et des poissons. 2 poissons. Apparemment, moi je me demande si André peut-être pensait vraiment que Jésus allait multiplier ces choses. Et il a amené le garçon avec son petit pique-nique pour dire: Jésus, écoute, voilà, sur 20 000 personnes, voilà ce qu'on a. 5 pains, 2 poissons. Mais Philippe, lui, devant l'évidence de l'impossibilité, sort sa calculatrice et calcule par tous les moyens s'il n'y avait pas un moyen matériel de trouver de la nourriture pour ces gens. Que recherchait Jésus de Philippe? Moi, je pense que Jésus voulait voir si Philippe aurait pu concevoir de lui-même la possibilité qu'il allait faire un miracle dans cette situation. Et la réponse, apparemment, était non. Et pourtant, dans Jean 2, il y avait déjà eu un miracle. Vous vous rappelez, Jésus a transformé de l'eau en vin, instantanément. Et dans Jean 2 et verset 6, il est dit ceci. Il y avait 6 vases de pierre, des gros vases, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Ça fait un paquet d'eau. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, dit-leur, et apportez-en à l'ordonnateur du repas, et lui en apportèrent. Donc, ils mettent de l'eau, tout le monde voit qu'il met de l'eau dans ces vases. Et quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, donc il met de l'eau et schlac, transformé en vin, en un coup. Ne sachant d'où venait ce vin, parce qu'il a vu l'eau rentrer dedans, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, les serviteurs, ils disaient: c'est trop super, il a fait un miracle, qu'est-ce qu'il va dire, ce ordonnateur de vin? J'ai vu l'eau rentrer, j'ai vu le vin sortir, trop génial. Eux, ils étaient clairs. Ils étaient clairs. Ils le savaient bien, nous dit le verset 9. Verset 10, et il lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Non seulement il a changé de l'eau en vin, vous qui êtes connaisseurs de vin, c'était, je sais pas, du Château Margaux. Est-ce que c'est un bon vin? Donnez-moi le meilleur vin là qu'on a en France. C'est lequel? Un des meilleurs, dites-moi. Quoi? Rolls-Royce? J'ai pas entendu, quoi? Cheval blanc. Ouais, c'était du cheval blanc. Bon, peut-être qu'il était rouge par contre, j'en sais rien, d'accord? Mais voilà, donc c'est vraiment un vin de grande qualité. Non, regardez verset 11 dans Jean 2. Tel fut à Cana de Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Les disciples étaient là. Waouh! Là, ils ont cru en lui. Et apparemment, juste quelques chapitres plus tard, Jésus se demandait si Philippe avait vraiment compris. Et s'il aurait pu imaginer, voilà, s'il a changé de l'eau en vin à Cana, ben peut-être qu'aujourd'hui il pourrait créer de la nourriture pour tout le monde. Là, c'est pas ce qui s'est passé. Philippe n'avait pas encore capté que Jésus était vraiment Dieu qui pouvait faire ces choses. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de Philippe ici? Je pense que Philippe était monsieur pragmatique, monsieur chiffres et calculs. Philippe est le genre de personne dans un conseil d'église qui sort systématiquement sa calculatrice dans une main et le budget de l'église dans l'autre main et dit que c'est impossible. Il dit, si vous faites ça, ça va couler l'église. Le budget ne le permet pas. Il était réservé. Provision inattendue. C'était pas possible qu'il imagine que Dieu allait pourvoir ainsi. Alors attendez. Ne dites pas que je suis en train de dire ce que je ne dis pas. L'Église a besoin de visionnaires, certes. Ceux qui osent prendre des risques, ceux qui osent sortir de cette zone de confort, de calcul, pour faire avancer l'Église. Mais écoutez-moi bien, l'Église a besoin de personnes qui rappellent qu'il y a un budget et que ce budget sert à quelque chose. C'est capital. Ces deux éléments doivent cohabiter afin de trouver un bon équilibre. Il faut oser d'un côté aller en avant et croire que Dieu pourvoira. Mais il faut aussi être raisonnable, capital. Pour Philippe, son obsession pour les calculs révélait chez lui un manque de foi apparemment aigu. Et le Seigneur utilise cet incident pour le corriger. C'est intéressant. Alors, quelle est la réponse que Jésus aurait peut-être voulu entendre de Philippe? Alors voilà, je me lance un petit peu, d'accord? Dans Jean 6, verset 5. Voici ce que je pense qu'il aurait voulu entendre. Seigneur, j'ai compté l'argent. J'ai compté les gens. J'ai compté le nombre de boulangeries dans le coin et humainement, de pouvoir à manger pour cette foule paraît impossible. Ça, c'est sûr et certain. Cependant, Seigneur, t'ayant vu changer de l'eau en vin à Cana, t'ayant vu opérer toutes sortes d'autres miracles dans le passé, je vois ici une grande opportunité pour te faire confiance. Et pour te voir faire éclater ta gloire à nouveau, comme tu l'as fait à Cana. Tu pourrais, si tu le voulais, Seigneur, certainement, en une seconde, pourvoir assez de nourriture pour tout le monde. Malheureusement, c'est pas ce qu'il a dit. Verset 8. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a eu 5 pains d'orge, qui a 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Et il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, écoutez bien, autant qu'ils en voulurent. On a annoncé « pizza » illimité dimanche dernier. Là, c'était poisson et pain illimité jusqu'à ce que tu ne peux plus en manger. C'était l'abondance totale. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Et ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Moi, je me suis toujours posé la question, ces 12 paniers, ils les ont trouvés où? Je me demande si Jésus a même créé 12 paniers. Moi, j'en sais absolument rien où ils ont trouvé ces 12 paniers. Mais il dit qu'il y avait 12 paniers de reste. Verset 14, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Moi, je pense que quand Jésus a fait ce miracle, Philippe, il a dû être là, mais alors, bouche bée, quoi. Il a dû dire, « Mais c'est dingue !» Il a dû se dire, mais waouh, c'est vrai que ma foi, elle est vraiment petite, là. Je pense qu'il n'a jamais oublié ça. Troisième événement. Jean 12. On a vu ça aussi la semaine dernière. On voit un homme très respectueux ici, Jean 12, à partir du verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe, voilà notre homme, de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Donc on avait vu ça, il y a des Grecs non chrétiens qui veulent parler avec Jésus, ils s'adressent à Philippe. Donc apparemment c'était lui la première personne que les étrangers devaient voir, on ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce qu'il avait peut-être un côté très chaleureux, très accueillant? On ne sait pas. Possible. Ce qu'il faut noter ici, c'est que Philippe respecte l'autorité en place. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'adresse à Raphaël, verset 21. Verset 22, Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Hein, comme on l'a vu la semaine dernière, apparemment il y avait un ordre pour aller voir Jésus. Et les gens venaient à Philippe, ils faisaient une sorte de première interview. Et ensuite, parce que Jésus, bon, tout le monde voulait le voir, donc il fallait qu'il ait de l'espace. Donc Philippe faisait le premier interview, ensuite il l'amenait à André. André, qu'est-ce que tu penses? Ouais, écoute, alors oui, ça passe, d'accord, ok. Puis ensuite les deux amenaient la personne à Jésus. Apparemment, c'est comme ça que ça se passait. Donc il va trouver André, qui faisait partie du premier groupe de disciples, et ils vont voir Jésus. Je pense qu'on ne veut pas trop lire dans cette histoire, mais là on voit tout simplement que c'est un homme non imposant, chaleureux, respectueux de l'autorité. Très respectueux de l'autorité. Moi je me dis que si ces Grecs étaient allés voir Pierre directement, bah, Pierre le réserverait tout de suite conduit à voir Jésus. S'ils étaient allés voir Jacques, Jacques les aurait virés, dirait « mourez hein, », parce qu'il aimait bien zapper les gens avec le feu du ciel. Peut-être Philippe, il était entre les deux, d'accord. Il savait faire la part des choses. Je pense que Philippe avait un sens aigu de l'ordre, mais en même temps, il luttait, je pense, pour le reste de sa vie avec cette foi. Regardez Jean 14, c'est intéressant. Enfin, pas le reste de sa vie, mais encore dans Jean 14, on voit encore un homme qui est un petit peu dans le doute. C'est dur, hein, parfois, d'être transformé par le Seigneur, ça prend du temps. Regardez chapitre 14, verset 1. Votre cœur ne se trouble point, dit Jésus, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Donc Jésus annonce qu'il va aller au ciel, partir, et il va leur préparer une place, le ciel. Et lorsque je m'en saurai aller, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Alors Thomas, on verra son portrait la semaine prochaine, lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas, comment pourrons-nous savoir le chemin? Nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe, c'est notre homme, lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Hein, Jésus vient de dire au verset 7, si vous me connaissiez, vous me connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors Philippe, il ne comprend pas trop. Hein. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père. Jésus répond, regardez, c'est intéressant. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. C'est intéressant. Il avait déjà cru aux Écritures, il avait déjà cru qu'il y avait un Messie qui devait venir, et il avait cru dans Jean 1 que Jésus était apparemment le Messie. Donc, quelque part, il avait déjà montré sa foi. Il avait finalement cru que Jésus fait des miracles. Mais dans chapitre 14, nous voyons que Philippe n'avait pas encore totalement saisi le fait que Jésus était issu du Père. Il arrivait un petit peu de la peine à comprendre que l'homme devant lui était Dieu incarné. Moi, je peux imaginer que c'était un petit peu, voilà, je sais pas, c'était quelque chose d'incroyable de voir Dieu incarné devant toi. Dieu en chair humaine devant toi. Et je pense que certains étaient plus lents que d'autres à capter ces choses. Et Philippe était un peu lent. C'est intéressant, l'histoire nous dit, la tradition nous dit qu'après la Pentecôte, Eusèbe affirme que Philippe devint une des lumières de l'Asie pour l'Évangile. Il aurait été enterré à Hierapolis, en Turquie, un endroit que j'ai eu le privilège d'aller visiter il y a des années de cela. Regardez, j'ai une photo de lui. Enfin, une photo. J'ai une image de la soi-disant tombe de Philippe. D'accord ? On dit bien sûr, possible tombe de l'apôtre Philippe à Hierapolis, en Turquie. Il y avait des ruines d'une ancienne église et ils ont supposé que cette église était probablement liée à la venue de Philippe. Je trouve ça quand même assez intéressant. Un homme qui avait des points forts, mais aussi qui avait des points faibles. Et moi, je crois que l'encouragement pour nous, c'est simplement que Jésus utilise des hommes normaux, avec des points forts et des points faibles. Passons à Barthélemy. Regardez, ça va un peu plus vite. Barthélemy. On est de nouveau dans Marc 3. Verset 18, il y avait André, Philippe, Barthélemy. Alors les érudits furent longtemps troublés par l'identité de Barthélemy, car les quatre listes des apôtres le mentionnent sous le nom de Barthélemy, mais Jean le nomme Nathanaël. Alors puisque Barthélemy veut dire fils de Tolmaïe, nous supposons que son nom complet était Nathanaël, c'était son prénom, et Barthélemy, c'était son nom de famille, le fils de Tolmaïe. Donc, Nathanaël Barthélemy. Donc, en fait, on aurait pu l'appeler ou Nathanaël ou Barthélemy. J'ai mis Barthélemy parce que dans la liste de 3.4, 3.18, son nom est Barthélemy. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on le connaît que par un incident. Donc, vous voyez, au fur et à mesure qu'on avance, sauf Judas, c'est l'exception, là, on a beaucoup d'informations sur lui, eh bien, on a peu d'informations, de moins en moins d'informations, d'accord ? Donc, dans Jean 1, 45, on voit son portrait. Jean 1, 45. Donc Philippe, le gars qu'on vient d'analyser, rencontra Nathanaël, 1 Jean 1,45. D'accord ? Et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Alors son point fort, j'ai envie de dire, c'est la rigueur. Philippe est allé voir Nathanaël, je pense que Nathanaël était le même genre de personne que Philippe, très rigoureux, recherche de la Bible, il voulait comprendre. Philippe explique qu'il avait trouvé celui dont parle l'Ancien Testament et affirmé que c'était le Fils de Dieu, et donc il convainc Nathanaël par cet argument. Mais son point faible apparaît dans le prochain verset, verset 46. Orgueil et sentiment de supériorité. Ça, c'est intéressant. Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Non, mais quand Nathanaël entend Philippe dire, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. » Quand il entend le mot « Nazareth », allez, il bloque complètement. Il bloque complètement. Pour une raison qu'on ne connaît pas trop, Nazareth, pour Nathanaël, était une ville seconde classe. C'était une ville qui avait des citoyens seconde classe. Je vais me lancer un petit peu. On était avec quelqu'un qu'on a rencontré récemment, qui est du canton de Vaud. D'accord ? Elle est vaudoise. Et on parlait, bon, super sympa, elle est chrétienne et tout. Et on parlait des différences entre le canton de Vaud et le canton de Genève. Et nous a fait entendre que dans le canton de Vaud, les Genevois sont un petit peu pas toujours bien appréciés. Et c'est marrant, j'ai l'impression qu'à Genève, parfois, on a un petit peu, parfois, la même attitude des Vaudois. Pas faux, hein ? C'est pour ça que dans le hockey, les derbies, d'accord ? Entre Lausanne et Genève, bah écoutez, ça va être dans le stade, ils font un derby dans le stade de Genève le 11 janvier. Ils savent très bien que les gens, ils veulent battre l'ennemi, quoi, d'accord ? Ils vont faire un match de hockey dans le stade ici. Incroyable ! Ils vont mettre de la glace, bien sûr, d'accord ? Mais je ne sais pas si quelqu'un, on était à l'époque de Jésus, et quelqu'un disait, voilà, Jésus du canton de Vaud. Vous riez, c'est marrant. Quoi? Non mais attends, le Messie est un vaudois? Non mais tu blagues ou quoi? Bien, vous êtes à Lausanne et on vous dit, ouais, Jésus, le Messie venu de Genève. Non mais, t'es malade, tu vas pas me dire que le Messie, il est, je sais pas, de Carouge ou de Genève, du Grand Saconnet, c'est pas possible, c'est impossible, d'accord? C'est un petit peu la même idée ici. Bon, je pousse vraiment à fond, hein, là. Donc il ne comprend pas, il ne peut pas imaginer que le Messie viendrait de Nazareth. Là, il bloque. Nathanaël lui dit, verset 46, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. Viens et vois. » Alors ce qui est intéressant, c'est que malgré ses doutes, il le suit. Verset 47, « Jésus voyant venir à lui Nathanaël. » Donc peut-être qu'il a une première réaction négative, mais il croit quand même son ami Philippe, qui a dû être hyper convaincant. Donc il y va quand même. « Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Alors Nathanaël était orgueilleux, fier de sa patrie, mais apparemment, il est aussi enseignable ici. C'est Jésus qui initie la conversation. Et qu'est-ce qu'il dit ici dans ce verset 47? Il dit, ben voilà, il part de Nathanaël, il dit, c'est un juif sincère, un juif sans hypocrisie, il dit ce qu'il pense, qui ose faire une recherche honnête pour voir si Jésus est vraiment le Messie. Donc quelque part, il l'honore pour sa franchise. C'est vrai que quand on évangélise quelqu'un, on leur parle du Seigneur. Moi, je préfère avoir quelqu'un qui bloque, qui réagit. Comme ça, on peut au moins discuter avec eux. Mais ceux qui disent oui à tout, mais on sait très bien qu'ils ne croient pas, on ne sait pas trop comment parler avec eux, c'est compliqué. Donc au moins, ils réagissent, et ça, c'est bien. Verset 48. Jésus vient de décrire sa personne dans le verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Alors il est surpris, Nathanaël, verset 48, « D'où me connais-tu ?» lui dit Nathanaël. « Mais comment est-ce que tu sais ça de moi ?» Apparemment, Jésus a touché sur quelque chose que seul Nathanaël, dans son cœur, savait de lui-même. Il dit, « Mais comment tu sais ces choses ?» Jésus lui répondit, verset 48, « Avant que... » Ma Bible, là, j'arrive pas à lire parce qu'elle est très vieille. « Avant... » Qui peut me lire, là ?« Avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier. » Oui, j'ai tellement de notes que je n'arrive pas à lire, d'accord ? Je vais changer de Bible bientôt. Voilà, donc il lui dit... En fait, il lui donne un clin d'œil sur sa connaissance surnaturelle de toute chose. Autrement dit, il lui dit qu'il était omniscient. Il l'avait vu avant même cet incident. Il lui dit qu'il l'avait vu lorsqu'il était sous le figuier. Donc à un moment donné, apparemment, il était sous un figuier. Apparemment, pendant qu'il était sous ce figuier, il faisait des recherches pour essayer de comprendre. Et Jésus lui dit, « Quand tu étais sous le figuier, il y a 3 jours en arrière, je te voyais. » Il dit, quoi? Mais non, j'étais tout seul. Non, je te voyais. Non, mais c'est pas possible. Vous vous rappelez de Jean 2, 23? Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fia en eux, car il les connaissait tous. Parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. C'est intéressant, là on voit la divinité de Jésus éclater. Jésus voyait tout et voit tout, et il voyait Nathanaël sous le figuier, même s'il n'y était pas. Et là, Nathanaël, il est soufflé. Il est soufflé. Verset 49, Nathanaël répondit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu et le roi d'Israël. » Il réalise sur le champ que seul Dieu pourrait avoir un tel pouvoir et conclut ainsi que Jésus est bel et bien le Fils de Dieu, le Messie que les Juifs attendaient, le portrait de qui il avait fait les recherches dans l'Ancien Testament. Là, il est convaincu. Le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et Jésus lui répondit, verset 50, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ?» Tu crois que ça, c'est un gros miracle. Mais t'as rien vu encore. T'as rien vu. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, quand il dit en vérité, il est en train de dire, c'est vraiment vrai ce que je vais dire maintenant. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Tu n'as rien vu encore. Et c'est vrai. Tout ce qu'ils auront vu les prochaines 3 années. Conclusion, Nathanaël était un homme de grande rigueur à cause de ses recherches personnelles. Nathanaël était aussi un homme orgueilleux. Il avait un problème avec Nazareth, vous vous rappelez ? Il se sentait supérieur aux autres. Mais une fois convaincu que Jésus était le Fils de Dieu, sa vie a été transformée. De nouveau, hein, ce que j'aime, moi, c'est que la Bible présente ces hommes tellement humains. Ils ont vraiment leurs problèmes, ces gars. Mais c'est encourageant, parce que je me dis, mais avec tous les problèmes qu'on a tous, et moi le premier, ben Dieu peut vraiment transformer notre vie. Mais il faut le laisser. Il faut être convaincu qu'il peut et qu'il veut. La tradition, l'histoire nous dit qu'après la Pentecôte et du départ de Jésus vers le Père, que Nathanaël est parti vers l'Arabie, la Perse et l'Inde. C'est toujours la même trajectoire. Pour prêcher l'Évangile. Peu après, alors de nouveau c'est ce que j'ai lu, hein, c'est la tradition qui dit ça, il aurait été crucifié, ensuite écorché, ça veut dire on arrache la peau, et ensuite décapité. Regardez, je vais vous montrer 2 images intéressantes. La première, c'est le martyr de Barthélemy par Tiepolo, je ne connais pas du tout l'artiste, mais chaque fois qu'il est représenté dans l'art, il y a toujours un couteau, parce que l'idée qu'il ait été écorché revient toujours dans l'histoire. Donc il est en train d'être tué, écorché, alors voilà, est-ce qu'il a été crucifié ? C'est des hypothèses tout ça, d'accord ? Mais la deuxième est plus convaincante, la deuxième photo. Ça, c'est le portrait de Barthélemy, dans le dernier jugement par Michel-Ange, dans la chapelle Sistine, ça se dit ? Ouais. Et là, parce que moi, j'avais jamais remarqué ça, je connaissais cette photo, mais je ne savais pas pourquoi elle était là. Parce que là, on voit Barthélemy, mais regardez ce qu'il tient dans la main gauche, sa peau. Et donc, même Michel-Ange avait pris ce détail pour mettre en avant son martyr. Alors, est-ce que c'est vrai historiquement ou pas ? Écoutez, c'est ce qui est dit, d'accord ? Mais je trouve intéressant que c'était un apôtre et que le Seigneur l'a vraiment utilisé malgré tous ses problèmes lorsqu'il a rencontré Jésus. C'est encourageant, non ? Vraiment encourageant. On passe au dernier, alors ça allait très vite pour le dernier d'aujourd'hui, numéro 7, le 7e apôtre, Matthieu. Simplement parce qu'on l'avait déjà analysé ou examiné il y a quelques mois en arrière ou quelques semaines en arrière. Peut-être on va prendre le texte de Matthieu 9. Alors il n'y a qu'un texte qui le décrit. Matthieu 9 pour changer de marque. En fait c'est très simple, il n'y a vraiment que 2 versets qu'on veut voir. Donc dans Matthieu 9 et le verset 9. Moi, je l'appelle le disciple corrompu et transformé. Verset 9, de là, étant allé plus loin, donc il était dans le village de Capernaüm, Jésus vit un homme assis au lieu des péages qui s'appelait Matthieu et lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Alors, je ne vais pas refaire tout le message, juste très brièvement. Vous pouvez aller l'écouter si vous voulez, l'appel de Matthieu, je l'ai intitulé. Jésus est à Capernaüm, il vient de guérir un paralytique dans la maison de Pierre. Au verset 9, on apprend qu'il va plus loin, et qu'il voit un homme assis au péage. Et cet homme s'appelait Matthieu. Matthieu était un percepteur d'impôts. Je parle que vous aimez les percepteurs d'impôts. Vous aimez payer vos impôts ? Est-ce que je peux entendre un amen ? Amen. Ouais, d'accord. Ok, merci. D'accord. Je sais que vous n'aimez pas payer vos impôts. Personne n'aime payer les impôts. Par contre, la Bible dit que nous devrions payer nos impôts. Allez, je vais parler en positif de Ce que nous devons faire en tant que chrétiens dans Romains 13 et le verset 6, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats, même si vous ne les aimez pas, d'accord, sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à la fonction de quoi ? De nous protéger. Contexte. Donc, on devrait être joyeux lorsque nous payons nos impôts. D'accord ? La prochaine fois, payez avec grande joie. Et si vous dites, ouais, mais je paye trop d'impôts, ben, c'est une bonne chose. Plus tu payes d'impôts, ça veut dire que plus ton salaire est grand. Donc, plus tu payes, plus tu devrais être heureux. Oui, on change la perspective complètement là, d'accord ? Donc, bénissons le Seigneur. Bref, lui, c'était un percepteur d'impôts corrompu. Corrompu. Matthieu 9:9, il arrive et il voit cet homme au péage qui s'appelait Matthieu. Alors, le système de taxation pour les Romains était très corrompu. Les Romains estimaient la somme d'argent qu'ils voulaient récolter de la région en question. Ils vendaient le pouvoir de percevoir les impôts du peuple à celui qui misait le plus haut. Le percepteur, en retour, donnait aux Romains le montant qu'ils exigeaient, mais lui pouvait garder le profit qu'il arrivait à extorquer les gens. Le système avait encouragé de tels abus qu'il a été finalement aboli. Alors c'est pour ça que les publicains, on les met toujours dans la Bible avec les prostituées, les gens de mauvaise vie, parce qu'ils étaient détestés, ils étaient haïs parce qu'ils étaient tellement corrompus, et surtout lorsque ces publicains étaient juifs. Parce que tu étais juif, tu travaillais pour les Romains et tu volais de ton peuple les juifs. Tu étais le pire des pires, quoi. Et là, il est en train de faire son truc. Récolter ses impôts de manière malhonnête. Et verset 9, dès là, en allant plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu du péage. Il est chopé en flagrant délit. Il s'appelait Matthieu et lui dit, suis-moi. Alors on avait vu dans le message que j'avais déjà vu qu'il avait déjà certainement rencontré Jésus dans ce petit village, il avait déjà fait des miracles, il savait qui il était. Mais ce jour-là, c'était le jour où Jésus l'appelait de manière définitive. À partir d'aujourd'hui, tu te repens, tu laisses ton péché. Et dans ton cas, ton métier, tu dois le laisser parce que ton métier est corrompu de A à Z. Et lui, il n'avait même pas la possibilité de rester dans son métier. Ouh. Zachée, c'était pareil. Il lui dit, suis-moi. Et cet homme se leva et le suivit. Ben, c'est sûr que Matthieu était sous la conviction de son péché. C'était le moment de dire, ok Seigneur, je lâche mon péché, moi je veux te suivre. C'est intéressant, il se leva et le suivit. Luc 5, 28 dit, il laissant tout, il se leva et le suivit. Il a tout laissé. Ça, c'est vraiment la repentance, mes amis. Vous savez, quand vous venez à Christ, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, moi, j'aimerais venir à Jésus, j'aimerais le pardon de mes péchés, la vie éternelle, mais bon, j'ai quand même envie de garder mes petits péchés pour moi. » Ah, ben ça marche pas comme ça, les amis, d'accord ? Non, Jésus est mort pour tes péchés. Quand tu viens à Christ, tu lui donnes tous tes péchés. Tu dis « Seigneur, viens faire le ménage dans ma vie. Ce qui n'est pas conforme à toi, change-le. Tout. Tac. Seigneur, je te donne tout. » C'est ce qu'il a fait. Ça, c'est ce qu'il veut. Ça, c'est vraiment l'attitude de cœur. Ça ne veut pas dire que tout ne va pas changer en un jour. Moi, je me rappelle, je vais parler de Jackson qui a lu la Bible tout à l'heure. Tu t'es converti il y a combien d'années, Jackson ? Il y a 5 ans, je me rappelle, tu t'es converti. Un jour, tu as dit, John, écoute, est-ce qu'on peut aller manger ? On venait de se convertir, tu te rappelles ? On est allé manger, hein ? On a mangé, puis Jackson, il était là, il a dit, écoute, John, moi, je suis tout nouveau chrétien, là, je viens de me convertir. Je veux tout mettre ma vie en ordre maintenant. Tu te rappelles ? Je dis, ouais, maintenant, écoute, c'est super, mais tu peux pas tout changer. Il y avait tellement de trucs, tout dans sa vie était vraiment, wow, c'était une vie à l'envers à l'époque, je me rappelle très bien. Je lui dis, mais attends, ça va prendre du temps. Il a dit, mais John, je veux tout changer maintenant, je veux tout abandonner mon péché, je veux être droit avec le Seigneur. Et je lui dis, mais c'est trop génial d'entendre cette attitude. C'est un homme que le Seigneur avait transformé. Et Carolina, tu t'es convertie combien de temps après ? Je sais pas, juste un an. 2-3 mois plus tard, c'était génial, quelle belle histoire, vraiment. Et ça, c'est vraiment l'attitude. Dieu veut que notre vie soit transformée et qu'on lâche tout. Et c'était le cas pour lui, regardez le verset 10, la suite. Comme Jésus était à table dans la maison, donc Matthieu il dit, génial, maintenant je suis chrétien, Maintenant, je vais inviter tous mes amis pour qu'ils puissent rencontrer Jésus. Alors, il invite tous ses amis de vie corrompue, tous les pires. C'était vraiment la classe mauvaise de Capernaum. Ils viennent toucher Matthieu et Jésus vient. Et Jésus accepte. C'est pas mal. Et il vient. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains, de gens de mauvaise vie, vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Trop génial. Il veut que tous ses amis rencontrent Jésus. Et les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» À la critique, il pleut là. Si les gens nous critiquent, j'espère que c'est parce que nous sommes en train d'évangéliser les gens qui ne sont pas chrétiens. Parce qu'on reste dans notre ghetto constamment. Ghetto chrétien, c'est sympa, mais ce n'est pas ici qu'on va les atteindre. C'est à l'extérieur qu'on va les atteindre. Jésus, les ayant entendus, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Matthieu est transformé, il veut que tous ses amis le rencontrent. On ne sait pas du tout qui s'est converti ou pas par rapport à ses amis, mais nous savons que Matthieu a suivi Jésus. Il est devenu un disciple absolument incroyable. Qu'est-ce qu'on apprend de Matthieu ? Premièrement, c'était un homme sensible qui a été profondément accablé par son péché. Un homme obéissant, lorsque Jésus l'a appelé, il l'a suivi. Matthieu avait aussi un cœur d'évangéliste, il avait un cœur pour ses amis perdus. Il les a même invités tous chez lui pour faire la fête, pour qu'ils entendent l'évangile. Et Matthieu a été grandement utilisé par le Seigneur, n'est-ce pas ? J'ai toujours trouvé intéressant que c'est lui qui a été choisi par Dieu pour écrire le premier évangile dans le Nouveau Testament. Il est devenu auteur dans le Nouveau Testament. Matthieu, cet homme corrompu, mais qui était totalement transformé par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'on sait de la fin de sa vie ? Il est dit qu'il serait allé dans le pays de Parthe, puis en Éthiopie, où il aurait été tué dans la ville de Nadaba par une algarde, une lance avec une pique de fer, dans les années 60 après Jésus-Christ. En fait, j'ai une image aussi. Une image, bien sûr, un artiste qui a essayé de recréer le moment où Matthieu a été appelé par Jésus. On voit le doigt de Jésus qui pointe vers Matthieu et Matthieu qui dit « Quoi ? Moi ?» Alors pourquoi il est chauve ? J'en sais rien du tout, d'accord ? Ça c'est l'artiste, la liberté artistique peut-être on appellera ça, mais je trouve que le moment était vraiment très très bien capté. L'imaginable que Jésus, le Fils de Dieu, m'appelle moi, il savait très bien qu'il n'était pas digne d'être sauvé. Mais justement c'est le but, on n'est pas digne, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Amen. Voilà mes amis, écoutez, ces trois portraits, on fera les quatre prochains, dimanche prochain, et ensuite on va garder Judas pour après nos invités. Mais j'espère que cette série vous fait du bien, elle est rafraîchissante, elle est très humaine, n'est-ce pas, vraiment, de voir les hommes que Dieu a utilisés. On va juste prier, d'accord ? Seigneur, merci de tout cœur pour ces beaux portraits aujourd'hui, Seigneur, ces hommes totalement normaux, des hommes qui vivaient leur passion de vie, qui était en recherche, essayer de comprendre pour certains le sens de la vie, des Écritures, pour d'autres, pas du tout. Pour d'autres, ils vivaient leur vie à fond, Seigneur, et profitaient des gens. Et ce qui est beau de voir, c'est que chacun d'eux, à un moment donné, a été confronté par la personne de Jésus-Christ. Et ils ont reconnu leur péché, ils ont dit oui, oui à Jésus. Y a-t-il quelqu'un dans cette église qui aujourd'hui est dans la même situation? Peut-être quelqu'un qui depuis longtemps cherche, curieuse, peut-être qui étudie la Bible, qui vient à l'église parce qu'il veut comprendre, mais n'a pas encore compris la seigneurie de Christ dans leur vie. Peut-être qu'il y a simplement quelqu'un qui est vraiment en rébellion totale, comme Matthieu, et qu'aujourd'hui Jésus dit, viens, suis-moi. Si c'est ton cas aujourd'hui, un de ces deux cas de figure, moi je te supplie, dis oui à Jésus, dis simplement maintenant dans ton cœur, ô Jésus, transforme ma vie, prends mon péché, je te demande pardon Seigneur, je veux m'en détourner, Merci pour le sang qui a coulé à Golgotha pour moi, Seigneur. Lave-moi. Purifie-moi. Aide-moi à te suivre fidèlement. Au nom de Jésus.